15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. C'est tous les jours de 15h à 16h. Pendant une heure, nous répondons à vos interrogations et nous tentons aussi de prendre soin de vous. Et pour cela, il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à un thème qui tient à cœur au docteur Jimmy Mohamed, la cellulite, cette petite couche de gras, de capitons dont on aimerait tous se débarrasser. Et bien avec notre invitée, la dermatologue Marie Jourdan, nous ferons le point pourquoi ne sommes-nous pas tous égaux et surtout quelles sont les techniques esthétiques qui permettent de la chasser. Des conseils bienvenus à quelques semaines des vacances pour les plus chanceux en tout cas. Ensuite dans notre chronique, les mots du quotidien. On va s'intéresser à la maladie d'Alzheimer. Savez-vous ce qui se passe vraiment dans le cerveau des personnes qui en sont atteintes? Est-ce uniquement une pathologie qui touche les personnes très âgées? Nous ferons le point enfin vers 15h50. Ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question de détails physiques qui peuvent parfois perturber la sexualité.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, nous reprenons nos habitudes avec le vrai faux. Vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1 et donc on écoute la première. C'est une question de Samia.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Mon pédiatre m'a parlé d'un vaccin contre la gastro qu'il faudrait faire à mon bébé qui va entrer en crèche en septembre. Je voudrais l'avis du docteur Mohamed parce qu'après tout, une gastro, c'est quand même pas si grave.
Alors Jimmy, ce vaccin contre la gastro, c'est un vaccin qui lutte contre les virus responsables de la gastro, le rotavirus, hein, c'est ça?
Oui, alors le rotavirus, c'est le premier virus responsable de la gastro-entérite chez l'enfant de moins de 6 ans. Il est responsable de véritables petites épidémies en hiver, en particulier dans les collectivités. Et c'est responsable de 150 000 consultations par an pour diarrhée. Et c'est aussi responsable chez l'enfant de moins de 3 ans de plus de 14 000 hospitalisations. Donc il ne s'agit pas d'une simple gastro banale.
D'accord, mais bon, on dit gastro et ce vaccin, comme elle le disait peut-être dans la question, la gastro, ça paraît pas si grave. C'est d'ailleurs pas un vaccin obligatoire.
Non, pour l'instant, les vaccins obligatoires, jusqu'à présent, c'était 3 vaccins, le DT polio, auquel on en a rajouté 8 autres pour les enfants qui sont nés à partir de 2018. Et d'ailleurs, en cette période de confinement, la vente de vaccins a baissé. Il faut absolument que les enfants retournent se faire vacciner, puisque si on donne un chiffre, 50% de baisse de vente sur les vaccins contre la rougeole. Certes, c'est obligatoire, voilà. Mais il y a un intérêt de santé publique. Il ne faudrait pas qu'on ait une nouvelle épidémie.
La rougeole circule toujours en France,
exactement.
Hein, il faut le rappeler.
Donc, retourner faire vacciner aux enfants, et en plus, c'est obligatoire.
D'accord, alors celui-ci n'est pas obligatoire. Et d'ailleurs, c'est un vaccin un peu particulier, puisque ce n'est pas une injection, hein, c'est un vaccin qu'on prend par la bouche, hein, je crois.
Exactement, c'est pour ça qu'on emploie le terme de vaccination pour le principe immunologique. En revanche, on peut le faire à partir de 6 semaines. Alors, il y a 2 types de vaccins qui sont proposés, soit en 2 ou 3 injections, avec quelques semaines d'intervalle. Ah oui, de dose, voilà, exactement, pas d'injection à boire. Et il faut le faire avant l'âge de 6 ou 8 mois. Et ce n'est pas remboursé par l'assurance maladie puisqu'il ne fait pas partie du calendrier vaccinal recommandé.
Alors je crois quand même qu'il y a un petit effet secondaire dont il faut parler parce qu'il n'est pas négligeable et qu'il peut être grave. Il y a un risque d'invagination intestinale avec ce vaccin dans les jours ou les mois qui suivent. Je ne sais pas exactement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
alors,
ce que c'est?
C'est ce qu'on appelle l'invagination intestinale aiguë. Vous avez un bout de l'intestin qui va se coller à un autre morceau d'intestin. Le transit ne peut plus s'effectuer et donc ça fait comme une occlusion. Cet effet secondaire est plutôt rare, c'est moins de 1 cas sur 10 000 enfants vaccinés, mais il faut quand même prévenir les parents et que ça peut survenir dans le mois qui suit la vaccination. D'accord. Et le plus souvent dans la semaine qui arrive. Et c'est assez caractéristique, c'est des enfants qui vont pleurer, être hypotoniques, c'est-à-dire qu'ils vont être tout mous, avec des accès de pâleur, ils vont être pas bien. Et à ce moment-là, évidemment qu'il faut consulter car il faut absolument hospitaliser ses enfants. Donc l'idée, c'est de donner cette information.
C'est un risque faible, mais il faut le savoir.
Mais il faut le prévenir les parents. Et c'est aussi pour ça que le vaccin n'est pas remboursé.
Très bien. On va passer à la deuxième question d'auditeur, Jimmy. Cette fois, c'est une question de David. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. C'est David. J'ai un panéry depuis quelques jours. Mon doigt est rouge et dégonflé. Peut-être un peu de pu dessus. Je me disais, est-ce qu'il y a une possibilité que vous pouvez me conseiller pour le soigner à la maison ou vous me conseillez à aller directement chez le médecin si c'est urgent? Merci.
Alors j'avais vous demandé de décrire ce que c'était qu'un panari, mais il le décrit assez bien.
Exactement.
Jimmy. C'est quoi exactement un panari?
Ça correspond à l'infection des tissus qui sont autour de l'ongle, voilà, par une bactérie
mains,
et qui est souvent
général,
exactement et qui est souvent pas alors aussi au niveau des pieds, mais qui survient souvent après une petite blessure qui est passée parfois inaperçue. Vous avez le germe qui est le plus souvent un staphylocoque doré ou un streptocoque qui va passer sous la peau et en 2 à 5 jours va développer une inflammation et puis vous allez avoir mal avec du pus ou pas. En revanche, il faut faire attention, chez certaines personnes, notamment les diabétiques, eh bien, l'infection peut être un peu plus sévère et donc il ne faut jamais négliger un panari.
Alors justement, il vous demande des astuces, est-ce que ça soigne à la maison? Vous avez quand même dit qu'il y avait staphylocoque, donc on pense infection, il faut absolument consulter ou ça peut se traiter tout
seul? Alors dans un premier temps, il faut laver ses mains régulièrement, c'est le premier des traitements.
En ce moment, tout le monde le fait quand
même. Ensuite, vous les désinfectez 2 à 3 fois par jour avec un antiseptique. N'hésitez pas à mettre un pansement pour le protéger du milieu extérieur.
On avait dit de mettre le doigt dans le Dakin.
Exactement, des bains de Dakin ou d'Exomédine, peu importe, un antiseptique. On peut faire ça aussi chez les enfants parce que ça peut arriver chez les enfants et même chez les nouveau-nés qui vont avoir un ongle incarné. Et à ce moment-là, si on se rend compte que d'ici 48 heures, ça ne s'améliore pas, que vous avez du pus, surtout vous ne le percez pas vous-même, vous prenez du paracétamol et vous allez voir votre médecin, puisqu'un panari non traité peut s'étendre vers les tendons des gaines au niveau des mains.
Et donc, un panari profond, en fait.
Et donc ça peut être une vraie urgence chirurgicale. Donc on consulte si ça ne s'améliore pas dans les 48 heures et surtout pas d'anti-inflammatoire. On pense souvent panari inflammation, on va prendre un peu d'Advil, d'ibuprofène. C'est strictement contre-indiqué. Du Doliprane, on désinfecte, on lave les mains et puis si ça ne va pas, on consulte.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed. Alors si vous aussi, comme David qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas, nous y répondrons au plus vite.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons accueillir notre invitée pour le dossier du jour. Ce sera le docteur Marie Jourdan, elle est dermatologue à Paris. Et avec elle, nous allons tout vous dire sur la cellulite. Pourquoi certains, même très minces, en ont? Quels sont les facteurs de risque? Et surtout, surtout, comment peut-on réellement s'en débarrasser de cette peau d'orange? On en parle dans quelques minutes. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Tout de suite, nous accueillons notre invité. Pour le dossier du jour, c'est vous, docteur Marie Jourdan. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes dermatologue au Centre Laser International de la Peau et membre de la Société Française de Dermatologie. Et avec vous, aujourd'hui, on va parler de la cellulite, évidemment, surtout de comment s'en débarrasser. On va y venir, bien sûr, si c'est possible. Mais avant ça, on va quand même tenter de comprendre, finalement, c'est quoi la cellulite? On imagine bien qu'il y a de la graisse, mais est-ce que c'est la même graisse que le reste? Pourquoi ça fait ces petits trous sur la peau?
Alors, la cellulite, c'est une accumulation de graisse sous la peau, mais c'est vrai que l'organisation de cette graisse va lui donner un aspect un petit peu peau d'orange capitonnée, tout simplement parce que les cellules graisseuses vont se réunir sous forme de grappes, et chaque grappe va être séparée par des cloisons qui, chez de nombreuses femmes, voire la plupart, sont perpendiculaires à la peau. Et du coup, effectivement, ces travées fibreuses vont s'insérer sous la peau et créer des creux, des bosses, un aspect de peau de gondolée qu'on dit peau d'orange.
Vous qui connaissez bien le sujet, Jimmy, je vous laisse poser la question suivante.
Non, mais parce qu'on peut aussi souffrir simplement de relâchement cutané et pas forcément de cellulite. On fait comment la différence?
Alors exactement, dans le langage courant, les gens viennent en se plaignant de cellulite, mais nous, médecins, on doit faire la différence entre la vraie cellulite, donc cette organisation particulière de la graisse, ou le relâchement de la peau. La différence, c'est souvent l'âge. Une patiente périménopause, postménopause, il va y avoir peut-être plus de relâchement. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'elle se plaint de la cellulite seulement à ce moment-là. Mais parfois, c'est quand même les deux, en fait. Les deux, et du coup, on peut prendre en charge les deux pour pouvoir y subvenir.
Il y a plusieurs types, quand même, malgré tout, de cellulite. Je crois qu'il y a des cellulites plus... Alors, les termes exacts, c'est de la cellulite infiltrée, de la cellulite fibreuse. C'est quoi la différence?
En gros, on la classe en trois familles. Il y a la cellulite adipeuse, qui est surtout liée à une prise de poids. Voilà, d'accord. Beaucoup de graisse.
Ça,
donc,
vous,
des
Jimmy.
Lobules graisseux.
Je casse aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi.
Les cellules graisseuses, elles sont gonflées. Il y aura plus de gras, donc elles vont être gonflées. Donc, du coup, les grappes plus gonflées, donc la cellulite. Donc là, le traitement, ce sera finalement un régime, une hygiène de vie, etc. Et il y a la cellulite aqueuse, mais en fait, en réalité, souvent, elle est mixte. Il y a un petit peu les deux. L'aqueuse, c'est surtout lié à une rétention d'eau, un trouble de la circulation veineuse, lymphatique. Il va y avoir une rétention d'eau, etc. Et puis la fibreuse, c'est celle qui est incrustée depuis de nombreuses années, qui fait carrément mal quand on la pince.
Ah oui.
Elle est douloureuse, elle est dure, et celle-ci... et encore différente.
Jimmy.
Vous avez spontanément parlé de la femme qui est en périménopause ou ménopausée, mais est-ce que ça veut dire que la cellulite, c'est qu'un problème de femme ou les hommes peuvent aussi en souffrir?
Alors, c'est tellement plus fréquent chez les femmes, voire même 90% des femmes souffrent, entre guillemets, de cette cellulite. C'est pas une maladie, hein, c'est juste une condition qui est un
petit défaut esthétique.
Voilà. Ouais. Mais il y a des hommes qui en souffrent aussi, mais on considère que c'est 2%. Donc on en parle moins, mais ils peuvent
en
souffrir.
Vous êtes une exception, finalement.
Allez, je sors des statistiques. Voilà.
Alors, on est d'accord, c'est quelque chose, par contre, de l'adulte. On n'a pas de la cellulite enfant, a priori.
Oui, exactement. Mais tout simplement parce que c'est surtout sous l'égide hormonale, et notamment les hormones féminines, les œstrogènes. Et c'est pour ça qu'on s'en rend souvent compte au moment de la puberté parce que les œstrogènes se mettent en route, mais aussi parce qu'il y a une prise de poids liée aux œstrogènes aussi, avec une répartition chez la femme, fesses, cuisses, ventre, etc. Et une organisation du tissu graisseux sous-cutané particulière dont on a parlé tout à l'heure. Jimmy ?
Donc ça touche simplement certaines zones, tout le corps, on peut avoir la cellulite partout, sur le visage, on est épargné. Est-ce que c'est lié à la répartition de la graisse ?
Oui, je dirais que c'est sur le visage, on est épargné, mais finalement, souvent, comme la cellulite est mixte, hein, c'est un peu trop de gras et une rétention d'eau, on peut même en avoir sur les mollets, on peut en avoir un peu partout, même sur les bras. Et puis, il y a aussi la constitution très héréditaire et génétique. Donc, en fait, on peut quand même en voir un peu sur tout le corps. Mais elle suit globalement, et dans la majorité des cas, la répartition graisseuse féminine, gynoïde, qui est vraiment les fesses, les cuisses, le ventre.
Alors là, on parle de graisse. Hein. On n'arrête pas de parler de graisse, c'est le sujet du jour. Mais on est d'accord, il n'y a pas besoin d'être en surpoids pour avoir de la cellulite. Il y a des filles très minces qui en ont, hein.
Ben exactement, parce que quand on prend du poids, on le stocke parfois pour l'utiliser, mais cette graisse sous-cutanée, c'est pas forcément la graisse qui va s'agrandir quand on prend du poids. Donc cette graisse sous-cutanée, elle existe chez tout le monde.
Même quand on est très très mince, on a quand même de la graisse.
Bien sûr, et à ce moment-là, si on a beaucoup déjà on a de la graisse, et en plus si on a une cellulite qui est surtout aqueuse, liée à une mauvaise circulation, on a d'autant plus de chances de faire de la cellulite alors qu'on est mince.
Jimmy ?
Vous l'avez dit, il y a un aspect un peu génétique, ça veut dire que si par exemple, on a des parents qui ont eu ou une maman qui a eu de la cellulite, on est plus à risque d'en avoir ?
Exactement, il peut y avoir cet aspect familial, on a plus de chances d'en avoir et il y a des chances qu'elle se manifeste plus vite aussi.
Donc on regarde sa maman, en général ça peut donner une idée, c'est pas à coup sûr, mais quand même ça peut...
Oui, ou papa peut... finalement,
ah, oui, c'est ça. Jimmy, vos enfants peuvent avoir peur. Alors
oui, les pauvres, oh là là. Mais heureusement ils ressemblent à leur mère, donc ils ont un peu de chance.
C'est ça. Voilà. On est d'accord, c'est pas aussi quelque chose qu'on a parlé tout à l'heure de relâchement cutané. On peut avoir de la cellulite, vous disiez dès la puberté, c'est possible.
Dès la puberté, le relâchement cutané, en fait, il va marquer les creux et les bosses, il va accentuer cet aspect gondolé, et du coup les travées fibreuses qui s'attachent à la peau vont d'autant plus se voir du fait des ombres que cela provoque. Mais en réalité, la patiente qui s'en aperçoit au moment du relâchement avait bien de la cellulite auparavant.
Avec la fermeté, on le voyait moins.
Exactement.
Docteur Jourdan, on fait que commencer cet entretien, vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons continuer à vous en dire plus sur la cellulite et bien sûr sur les moyens, les crèmes, les techniques esthétiques qui permettent peut-être de s'en débarrasser efficacement. À quelques semaines de la saison officielle du maillot de bain pour les plus chanceux, ce qui suit devrait vous intéresser, j'en suis sûre. À tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed, qui prend plein de notes aujourd'hui, puisque notre invité, c'est vous, docteur Marie Jourdan, vous êtes dermatologue au Centre Laser International de la Peau et membre de la Société Française de Dermatologie. Alors aujourd'hui, on a dit qu'on décortiquait, si je puis dire, la cellulite, et surtout les moyens pour s'en débarrasser, quand elle nous dérange en tout cas, parce qu'il y a des gens qui s'en fichent après tout, on n'oblige évidemment personne. D'abord, docteur, vous disiez, donc l'hérédité, c'est un facteur de risque, d'accord, mais est-ce qu'il y en a d'autres ? Est-ce que, je ne sais pas, ça peut être synonyme, par exemple, d'une mauvaise hygiène de vie ?
L'hygiène de vie, évidemment, parce que la prise de poids, l'augmentation de la quantité de graisse va augmenter le risque, entre guillemets, de cellulite. Le manque de sport aussi, parce que si on tonifie les muscles, la peau, on la verra moins. Et puis, surtout, l'égide des hormones, comme on disait tout à l'heure. Donc, finalement, tout ce qui va venir bouleverser les hormones, donc la puberté, évidemment, les grossesses, la prise de poids plus l'augmentation des hormones, la ménopause. Donc, tous ces changements vont accentuer la cellulite parfois.
Jimmy ?
Si on tape cellulite traitement sur Google, on va avoir plein de traitements et plein de remèdes de grand-mère. Ouais. Est-ce que, par exemple, prendre une douche froide avec de l'eau froide permet de lutter contre la cellulite en disant qu'on va raffermir les choses ?
Oui, il faut avoir l'esprit ouvert. Mais en fait, si, un peu tout ce qui va améliorer le retour veineux. Tout ce qui va jouer sur le retour veineux, puisqu'on sait que ces grappes de graisse sous la peau vont se gonfler si on prend du poids, mais aussi si on retient trop d'eau, ça va être gonflé et ça va se voir plus. Donc tout ce qui va augmenter le retour veineux, les massages...
Donc un jet d'eau froide comme ça, tous les jours, sur les jambes, ça peut
si
faire du bien.
Si on finit sa douche tous les jours avec un jet d'eau froide, on sait que ça tonifie, ces vénotoniques,
ça diminue
ça
un peu l'aspect. On va pas
s'en débarrasser. L'aspect, voilà. On va diminuer l'aspect. Donc, c'est absolument pas pérenne. Il faut le faire tous les jours, cette petite habitude.
Boire beaucoup d'eau, ça compte alors, du coup, puisque vous dites.
Alors, oui, j'ai lu
boire
ça
deux
aussi.
Litres, il paraît boire au moins 2 litres pour se débarrasser
alors,
de sa cellulite.
Alors, en fait, je pense que cette idée est peut-être née d'une étude britannique qui disait qu'ils avaient fait une étude. Ils s'étaient rendu compte que les gens qui buvaient la moitié d'une bouteille d'eau avant chaque repas, eh ben, ils perdaient plus de poids que ceux qui tenaient le régime normalement. Mais ça tient à une chose très simple, c'est que qu'est-ce qui se passe, Mélanie, si vous buvez la moitié d'une bouteille d'eau avant de manger.
J'ai plus faim.
Eh ben voilà, c'est un copain en fait.
Ça, dit, parce
donc en fait, on
là,
mange moins. Donc
une idée.
Finalement, on perd plus de poids, donc ça diminue la cellulite.
D'accord. Ok, c'est tout con, mais ça marche. Jimmy.
Le palpé roulé que certaines esthéticiennes peuvent proposer, le massage, est-ce que ça peut aider à lutter contre la cellulite?
Pour deux raisons. Le palpé roulé, il peut être fait de manière manuelle, mais aussi à l'aide de machines qui vont être encore plus performantes, ventouses et appuyées sur la peau. La première, c'est par le drainage que cela va provoquer. Et aussi, ça va tonifier un petit peu la peau. Le fait que la peau soit plus fine chez les femmes participe au fait qu'on voit plus la cellulite. Et donc, le fait de tonifier, d'épaissir la peau va diminuer.
Parce que chez les hommes, peut-être, elle est là, mais on la voit moins parce qu'ils ont la peau plus épaisse.
Alors,
aussi.
Elle est soit injuste, effectivement, ouais. Mais aussi ces fameuses travées fibreuses très perpendiculaires chez la femme sous la peau, chez l'homme, sont un peu obliques.
Oh,
c'est pour
ça
qu'ils sont génétiquement plutôt protégés.
Très chanceux. Vous disiez tout à l'heure que ça pouvait être aussi synonyme finalement de problèmes de retour veineux. Mmh. C'est-à-dire que les femmes qui ont peut-être des problèmes de jambes lourdes,
exactement.
Elles ont plus de cellulite
que
les autres.
On va poser la question.
Ouais.
Parfois, on rencontre même des patientes qui n'ont finalement que ce problème-là. Elles peuvent venir demander à ce qu'on enlève la cellulite, mais en fait, le remède, c'est les bas de contention, les massages, boire moins salé. On parlait de boire de l'eau tout à l'heure, mais on peut ajouter à son eau des éléments un peu drainants.
C'est-à-dire
tout ce qui est de l'ananas,
du citron,
manger des oranges, du citron, etc. Bon, brocoli, artichaut,
ça aide à éliminer
tout ça mélangé,
ouais.
Je ne sais pas trop. L'ail, l'oignon, drainant.
Oh,
avec
la mixture, là, je ne vous dis pas.
Voilà, la distanciation sociale, on peut peut-être se le permettre en ce moment, mais ouais. Moins dans d'autres conditions. Mais tout ça, ça va drainer et ça va participer à diminuer l'eau et donc l'aspect cellulitique de
d'accord.
La peau.
L'aspect, encore une fois. Jimmy.
Beaucoup de crèmes sont vendues dans les commerces, certaines très chères, d'autres un peu moins. Est-ce qu'elles servent à quelque chose? Et est-ce que plus on paye cher, mieux c'est?
Alors, la réponse est non, surtout en cosmétique. Mais c'est un petit peu mystérieux pour moi, ces idées de crèmes qu'on applique sur la peau et qui vont avoir un effet à l'intérieur. Les crèmes, elles s'appliquent, elles ne pénètrent pas dans le sang, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des principes actifs, mais qui sont connus depuis fort longtemps. Et je pense notamment à la caféine, tout simplement. Quand on l'applique tous les jours, etc., il peut y avoir un petit passage dans le derme, voire même, soyons fous, dans l'hypoderme, donc cette fameuse
la couche en dessous.
Graisseuse. Et ils ont une petite action de drainage des cellules adipocytaires, donc les cellules graisseuses vont un peu se vider. Donc là, attention, on est sur un effet, pourquoi pas, mais purge. Hein, la graisse va sortir de la cellule, mais la cellule sera toujours là. Donc demain, si on mange un peu gras, ça va à nouveau stocker.
Donc vous dites garder votre argent et éviter de dépenser
c'est vrai que
des sommes
idée
extraordinaires.
Très,
ce que vous dites sur la caféine, moi ça me donne envie d'essayer les crèmes à la caféine. On en voit beaucoup.
Pourquoi pas une crème à la caféine, ouais. Mais après l'idée fantasmagorique qu'on va perdre du poids et enlever la cellulite en dormant parce qu'on s'est appliqué de la caféine,
non.
C'est un petit peu publicitaire quand même. Hein.
D'accord, donc il n'y en a aucune vraiment qui soit magique en tout cas.
Bah, y a des principes actifs qui font office de valeur sûre. Après, est-ce qu'il faut les payer plus cher ou pas? Je ne pense pas que ce soit forcément un indicateur important.
Merci, docteur Jourdan. On va faire une courte pause et continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1.
Sans rendez-vous de revient dans un instant. Nous allons passer aux techniques esthétiques qui fonctionnent pour lutter, diminuer au moins l'aspect peau d'orange qu'on déteste parfois au niveau de nos hanches, sur les fesses ou sur les jambes. On va vous détailler tout ça juste après. Alors restez bien avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1, Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité c'est vous, docteur Marie Jourdan. Vous êtes dermatologue et membre de la Société française de dermatologie. Alors, on parle de la cellulite aujourd'hui avec vous et à présent on va passer aux moyens, aux techniques médicales qui permettent de s'en débarrasser. Avant ça, j'ai quand même une petite question. Quand on dit cellulite, on parle de graisse, ça on l'a compris. Donc je me dis que si on utilise la liposuction qui sert à aspirer la graisse, finalement, ça règle le problème définitivement, non ?
Alors c'est une très bonne question, mais en réalité la liposuction va enlever une quantité de graisse, donc elle va jouer sur la silhouette, sur le volume, mais pas sur l'organisation du tissu graisseux lui-même. Donc finalement on peut être déçu si c'était vraiment l'aspect gondolé contre lequel on voulait lutter, c'est pas ça qu'il faut faire. Mais le chirurgien le sait parfaitement et l'expliquera. Il faut juste comprendre que cette liposuction va diminuer le volume, mais vous garderez
l'aspect gondolé, capitonné.
Exactement, ça c'est autre chose.
Parce qu'on n'enlève pas toute la graisse évidemment, donc si elle est comme ça par nature, effectivement c'est plus compliqué. Alors il y a une technique qui est moins invasive que la liposuction, mais quand même un peu invasive entre guillemets, puisqu'il faut une anesthésie locale. C'est une aiguille qui casse le fond des trous de la cellulite. Comment ça s'appelle? C'est quoi exactement?
C'est le Selfina. Alors ça, c'est effectivement toujours dans la graisse. On peut aller tout simplement casser directement les cloisons qui entourent les lobules graisseux. En fait, on fait l'examen clinique de la patiente, on entoure les trous qu'elle veut enlever. Ça, c'est vraiment le traitement des trous, puisque le trou est lié à cette attache profonde, oui. À une cloison profonde qui tire dessus. Et du coup, avec une aiguille, on va aspirer et avec l'aiguille, casser cette fibre qui va remonter la peau.
On fait ça sur toutes les zones ?
Donc ça peut être très intéressant, mais c'est une indication assez particulière. C'est la patiente jeune, où il n'y a pas de relâchement de peau du tout. Et ce sont ces patientes qui veulent, quand elles serrent les fesses, en fait, qu'on ne voit pas du tout de trous, pouvoir mettre des shorts ou des jupes assez courtes, etc. C'est vraiment la bonne indication.
D'accord. Jimmy ?
Donc c'est plutôt sur les fesses et sur les cuisses ?
Les fesses et le haut des cuisses.
Et on fait ça en combien de séances ?
Une séance.
Une séance, et une du séance. Coup, elles viennent, elles font la séance et elles repartent travailler, parce que oui. Quand vous décrivez le truc, c'est un peu impressionnant quand même. Mais on met une aiguille, on casse la fibre, elle remonte.
Bah, en fait, contrairement à ce qu'on pense, elles peuvent tout à fait s'asseoir après. Il n'y a pas tant de bleu que ça. C'est pas du tout comme une liposuction. C'est beaucoup plus léger.
Et c'est définitif le résultat.
Effectivement, c'est définitif.
Donc c'est radical, donc ça doit avoir un certain coût.
Alors
en plus,
après, ça coûte plus de 3000 euros. Mais il faut comprendre qu'après, la patiente peut avoir d'autres capitons dans les 5 ans ou au moment de la ménopause, mais ce sera de manière différente avec un relâchement cutané. Mais si par exemple, une patiente jeune, même 30 ans, a vraiment une dizaine de trous très visibles,
c'est définitif.
On peut les enlever, oui. Il suffit de casser cette.
Alors, anesthésie locale, mais ça paraît quand même très efficace. Bon, même si on l'a compris, ça a un coût. Une seule séance et c'est réglé. Alors, toutes les patientes ne peuvent pas bénéficier forcément de ça. Il y a une autre technique, technique 2, on va dire. Il y en a trois, on a dit, principales, qui marchent bien, qui utilisent donc la radiofréquence contre la cellulite. Expliquez-nous de quoi il s'agit là.
Oui, alors ça, c'est une technique assez ancienne. On connaît ça depuis très longtemps en dermatologie. On utilise un courant électrique qu'on fait en gros, qu'on fait passer dans la peau. L'idée, en fait, c'est d'aller chauffer très fort la peau pour la retendre sans la brûler. Donc, sur le plan physique, on sait le faire depuis très longtemps. Maintenant, le développement et le progrès a fait qu'on a sorti des radiofréquences très performantes qui vont quand même beaucoup plus profond, qui peuvent même atteindre l'espace de la graisse et du coup retendre et faire fondre un petit peu le gras. Mais ça reste un traitement superficiel dont l'efficacité sera surtout sur le relâchement de la peau. Donc, on aura un aspect nettement amélioré.
C'est pas la même indication de personne, en tout cas, là.
Oui, c'est pas tout à fait pareil. Mais aujourd'hui, les radiofréquences, il y en a qui sont très performantes et qui peuvent vraiment diminuer un peu le gras et tendre la peau.
Jimmy.
Et sur quelle zone du corps c'est le plus efficace? Là, on a les meilleurs résultats?
La radiofréquence a de très bons résultats au niveau du ventre quand on veut retendre la peau. Mais effectivement, au niveau des cuisses, pour retendre et diminuer l'aspect gondolé, ça marche bien aussi. Il faut en revanche plusieurs séances. Ça dépend des machines, mais on est entre 4 et 6 séances. Il faut les espacer d'une dizaine de jours. Et on a des résultats qui sont parfois un petit peu retardés.
Ah oui, on sort pas, on a pas plus de cellulite tout de suite. Quoi.
C'est-à-dire que les premiers effets que vous allez avoir, c'est une rétraction du collagène. Il va y avoir de nouveaux collagènes qui est créé. Donc on a vraiment un épaississement, une meilleure qualité de peau qui va se retendre. Et on peut avoir ensuite un effet sur la graisse sous-cutanée.
D'accord. Et ça, il faut donc 4-6 séances. Ça coûte combien la séance?
Ça dépend
à peu
des
près
machines. Je sais pas, j'ai en envie de vous dire. Ça dépend de la surface qu'on va traiter. On peut être entre 200 et 500 euros la séance.
Jimmy ?
Dernière technique, la troisième, c'est le qui permet de traiter de façon plus profonde. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est?
Alors effectivement, il y a un outil qui est un peu plus récent, depuis à peu près un an, où en fait, l'idée, ça a été comment chauffer, mais encore plus profond. Donc on a vu que ces radiofréquences avaient bénéficié d'avancées technologiques. Elles peuvent être associées à des ultrasons qui font vibrer les cellules. Et du coup, la radiofréquence va descendre plus bas jusqu'à la graisse. Mais on a aussi trouvé cette énergie particulière dans le spectre des micro-ondes, cette énergie micro-ondes, elle va directement aller beaucoup plus profond. Elle peut aller jusqu'à 1,5 cm de profondeur et toucher des tissus graisseux plus importants. Donc même une patiente qui a plus de graisse au niveau des fesses, des cuisses et vraiment un aspect cellulitique, on va avoir le double effet. On chauffe très fort la graisse jusqu'à détruire des cellules graisseuses.
Cette technique, vous avez l'air de l'aimer bien. Ça m'a l'air de bien marcher.
Il se trouve qu'on a de très bons résultats. Et après, on va avoir une diffusion de la température à la surface qui va retendre la peau.
Combien de séances là aussi et quel coût?
Alors les séances, ça dépend des patientes. On va dire il faudrait quand même prévenir que c'est 3 à 5 séances.
Un peu moins que pour les
radiofréquences. Un peu moins, et elles sont très espacées cette fois. Il faut les espacer de 3 semaines environ. Et ensuite, vous dites, j'ai l'air très contente et toute cette technique, mais il faut toujours prévenir que dans ce type de médecine, là on est vraiment sur des techniques à chaud, on a toujours le risque d'avoir 10-15% de la patientèle qui ne va pas bien répondre à ces techniques à chaud.
Bien sûr.
Donc c'est quand même un risque important. Finalement, c'est un risque financier parce qu'en revanche, ce ne sont pas des techniques qui souffrent de grands risques médicaux.
Ouais. Juste un dernier mot très rapide. Là, on a parlé de toutes les techniques médicales, tout ça, ça se fait avec des médecins. Comment on choisit le praticien, le centre? Parce qu'il y a aussi dans les cabinets esthétiques des choses qui sont proposées avec des machines. On ne sait jamais trop ce que ça vaut. Comment on choisit ?
Je sais pas comment les gens choisissent, je ne sais pas. Je leur pose souvent la question, mais en fait c'est difficile parce que les machines, on les dénomme avec le nom de la technique, mais en fait ces techniques, radiofréquences, micro-ondes, ce sont de vastes familles. Et effectivement, les industriels ont fabriqué de tout, quoi. C'est comme la brosse à dents électrique, quoi. C'est un peu un grand mot.
Donc aller avec un médecin, c'est mieux quand même.
Donc finalement... effectivement médicalisé, parce que les industriels ne vendent pas, même si c'est la même technique, mais les machines sont bridées, donc c'est quand même plus médical. Donc le médecin, et puis je pense que c'est très important d'avoir confiance, d'avoir un bon contact tout simplement, pour s'assurer qu'on ne va pas être lâché dans la nature après, quoi. Je pense que c'est important aussi qu'on fasse des photos, qu'on regarde ensemble si le résultat est bien. C'est quelque chose qui est assez honnête. On veut subvenir à un besoin visuel, donc on peut tout simplement regarder sur photo les résultats, etc.
Merci beaucoup, docteur Marie Jourdan, d'avoir accepté de répondre à nos questions et nous avoir éclairé sur la cellulite et les moyens, surtout efficaces, pour s'en débarrasser. Merci encore.
Merci. Europe 1.
Dans un instant, notre chronique, les mots du quotidien. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la maladie d'Alzheimer. Savez-vous ce qui se passe vraiment dans le cerveau des personnes qui en sont atteintes ? Est-ce uniquement une pathologie qui touche les personnes très âgées ? Nous ferons le point. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les mots du quotidien, avec un focus aujourd'hui sur la maladie d'Alzheimer. Savez-vous ce qu'il se passe dans le cerveau des patients touchés par cette pathologie ? Est-ce une maladie uniquement de la personne âgée ? Justement, Benjamin Lévesque est parti sur le terrain vous interroger sur ce sujet. On écoute son micro-trottoir.
C'est le fait d'oublier certaines choses qui viennent de se passer très peu de temps avant. C'est une maladie qui touche beaucoup de personnes, malheureusement.
Les grands-parents, dans les maisons de retraite, etc. Dans les cas les plus extrêmes, les personnes ne reconnaissent vraiment plus leur quotidien, leur environnement, même lorsqu'ils sont chez eux ou leur entourage proche.
Alzheimer, je pense que c'est la personne qui a mis un nom sur cette maladie.
Je pense que les facteurs extérieurs qui peuvent influencer, c'est le tabac, c'est la consommation en fait de drogues excessives, l'alcool, le tabac, les drogues, etc.
Qu'on soit très littéraire ou très manuel, ou plus manuel, pour moi, il n'y a pas de différence.
Quand on a quelqu'un dans sa famille qui est atteint, le mieux, c'est de se faire dépister. Je pense qu'il y a des techniques qui permettent de savoir si on a un risque génétique.
On oublie, on peut oublier de se nourrir, de boire, mais je ne pense pas qu'on meure d'Alzheimer même. C'est les conséquences d'Alzheimer qui font que les personnes meurent.
Jimmy, on va reprendre tout du début. Alors d'abord, qu'est-ce qui se passe concrètement dans le cerveau quand la maladie d'Alzheimer s'installe ?
Avec l'âge, les organes vieillissent et le cerveau n'y échappe pas. Sauf que dans la maladie d'Alzheimer, vous avez une dégénérescence particulière des neurones qui vont débuter au niveau d'une structure cérébrale qu'on appelle l'hippocampe. L'hippocampe, elle est essentielle pour la mémoire. Et puis petit à petit, les lésions vont s'étendre. Il y a une forme de glu qui va s'accumuler entre les neurones avec des substances toxiques qui vont entraîner des lésions irréversibles des neurones, qui vont entraîner un trouble du comportement et ce qu'on appelle un déclin des fonctions cognitives, c'est-à-dire des fonctions de calcul, de réflexion, et qui vont progresser petit à petit et de façon irréversible.
Alors, est-ce que c'est uniquement une maladie de la personne âgée ?
Plutôt oui. Après 65 ans, on estime que la fréquence de la maladie s'élève à 2 à 4% dans la population générale. Et après 80 ans, c'est 15% de la population. C'est 900 000 personnes en France. Et avec le vieillissement, on estime qu'en 2020, c'est-à-dire là, prochainement, 1 300 000 personnes vont en souffrir.
Alors, on ne va pas parler des traitements aujourd'hui, on a peu de temps, mais on va essayer de parler un tout petit peu de prévention, parce qu'on refera une mission sur les pistes de recherche intéressantes. La bonne nouvelle, Jimmy, c'est qu'on sait aujourd'hui qu'il est possible de la prévenir ou au moins de retarder l'apparition des symptômes.
Oui, c'est le professeur Philippe Amouyel, qui est président de la Fondation Alzheimer et chercheur, qui était venu nous en parler. Stimuler son cerveau, c'est la meilleure façon de repousser la maladie, de la prévenir. Et tout simplement, il suffit de commencer plus petit, et ce qui serait pas mal, c'est lorsque vous faites des études plutôt longue, c'est prouvé, vous retardez l'apparition de la maladie d'Alzheimer de 10 à 15 ans par rapport à ceux qui font des études un peu plus courtes.
Alors pour stimuler, il y a aussi plein de choses qu'on peut faire mais qu'on imagine bien. Donc on peut lire, faire des mots croisés, enfin tout ça c'est bien. Mais je crois que finalement se contrarier un peu, expliquez-nous, c'est bon aussi.
C'est sortir de sa zone de confort. C'est le professeur Philippe Amouyel qui nous avait expliqué ça. Et il suffit de se lancer dans des activités inconnues. Alors, ça peut être l'apprentissage de nouvelles langues, des langues étrangères, de nouvelles techniques, de nouvelles compétences.
Ça crée des connexions dans le cerveau, tout ça.
Exactement. Et un exemple tout simple qu'il nous avait proposé, c'est de se servir de sa main gauche 10 minutes par jour si on est droitier. Vous allez voir au début, c'est un peu déroutant.
Je ne sais pas si
mais
je vais y arriver.
Au bout d'un moment, votre cerveau va s'adapter. Il y a une forme de plasticité cérébrale. Et donc, vous allez créer de nouvelles connexions. C'est ce qu'on appelle la réserve cognitive. Et donc, avoir un cerveau en bonne santé, c'est un cerveau qui s'entretient. Il ne faut pas attendre d'être malade pour prendre soin de soi. Donc prenez soin de vous et faites du Scrabble ou peu importe pour limiter le vieillissement.
Et on se met des contraintes, on sort de sa zone de confort, on a compris. Merci beaucoup Jimmy pour toutes ces précisions.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, c'est la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, il sera question de détails physiques, anatomiques qui peuvent parfois perturber la sexualité. Restez sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et elle entre dans le studio à l'instant pour terminer cette émission en beauté. C'est Catherine Blanc. Catherine Blanc, notre sexologue d'Europe 1. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors aujourd'hui Catherine, on va essayer de répondre à cette question de Damien. Damien, il a 39 ans, je vous la lis. Pour des raisons esthétiques, j'aimerais me faire circoncire, mais j'ai peur d'en rater, de perdre les sensations et au final de regretter. Alors Catherine, déjà, est-ce que c'est très différent finalement en termes de sensations? Je ne sais pas, pour un homme, le fait d'être circoncis ou pas.
Ah ben bien sûr, puisque, en tout cas, quand on passe de l'un à l'autre, tout simplement parce que pour un homme qui n'est pas circoncis, son gland est complètement contenu par le prépuce qui décalote.
Protégé,
voilà,
ouais.
Et qui décalote le moment de la sexualité, à condition bien sûr qu'il puisse décaloter, qu'il n'ait pas de phimosis ou des choses comme ça. Dès lors que le prépuce n'est plus puisqu'il est circoncis, eh bien, toutes les sensations au quotidien, c'est même pas la sexualité, c'est au quotidien. Le gland qui frotte contre le slip ou le caleçon, tous les mouvements sont particulièrement sensibles, un peu comme vous, Mélanie, qui avez des cheveux longs, qui tout d'un coup, vous couperiez les cheveux très très courts, et tout d'un coup, vous découvririez le vent dans votre cou, une sensation tout à fait nouvelle. C'est exactement ce qui se passe, jusqu'au moment où le corps s'habitue à ces nouvelles sensations.
Donc il a raison de s'inquiéter un peu de ce risque, entre guillemets, de changement de sensation, même si c'est peut-être pas des sensations désagréables.
Après,
d'ailleurs,
ça ne sera pas des pertes de sensations, ça sera vraiment des sensations nouvelles, parce que le gland, qui est la partie la plus sensible, même si le corps du pénis est également sensible, mais le gland est particulièrement sensible, eh bien évidemment va découvrir d'autres sensations, mais pas dans la sexualité, puisque dans la sexualité, de toute façon, le prépuce recule sur la partie sur le corps du pénis, et donc du coup, ce sont les mêmes sensations qui se produisent, sauf si on considère évidemment l'acte chirurgical et le fantasme et le regard que l'on porte sur soi-même, sur ces nouvelles sensations, ou l'idée de s'être abîmé. Et là, au contraire, ça va être psychologiquement que l'on va pouvoir trouver des difficultés à venir par angoisse de s'être scarifié ou de s'être abîmé d'une certaine manière.
Docteur Jimmy Mohamed.
Mais pourquoi est-ce qu'il parle de raisons esthétiques? On pourrait le comprendre certaines fois par une sorte d'hygiène. Mais pourquoi il dit, c'est-à-dire qu'il trouve que tout d'un coup, à 40 ans, son sexe est moche,
bah oui,
il n'est
ça,
pas
c'est bizarre,
circoncis.
À 39
pourquoi
ans, ouais.
Il y a cette transition? Est-ce qu'il y a une influence de la pornographie où on n'a que des sexes en érection, qui peut être circoncis, je ne sais pas? Ou qu'est-ce qui fait qu'à 40 ans, on se pose cette question?
Alors déjà, dans la pornographie, même si les sexes ne sont pas circoncis, de toute façon, comme ils sont toujours en érection, on ne les voit que comme ça. Donc c'est exactement le problème pour les femmes qui voient des sexes roses. Donc il faut avoir des sexes roses parce qu'ils sont...
Sexe rose, je suis désolée, j'ai
pas compris. Ils sont maquillés parce que la peau de la vulve est une peau qui est teintée.
Je croyais qu'on parlait de couleur là, de colorer.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait la pornographie a donné une image extrêmement standardisée de la sexualité, ce qui fait que la rencontre avec la réalité de son corps devient compliquée. Et puis évidemment qu'un sexe non en érection, s'il y a un prépuce, il est là un peu flasque, mais un pénis flasque est un pénis flasque.
Oui, c'est avec ou sans prépuce. Un pénis flax, c'est pas très très beau non plus, quoi. Enfin, genre, c'est pas, y a pas un charme extraordinaire un pénis non en érection.
Enfin, voilà. Non, mais en tout cas, on peut mettre ça on peut le voir de manière effectivement identique. Simplement, pour lui, peut-être que ça se rapproche plus de l'image qu'il se fait du sexe parfait.
C'est quand même curieux à 40 ans de changer comme ça, de vouloir changer quelque chose comme ça à 40 ans pour des raisons esthétiques, quoi.
Oui, alors c'est parce que c'est une rencontre avec quelqu'un qui n'a jamais eu de relation avec quelqu'un qui n'est pas circoncis et qui du coup dit j'en ai pas l'habitude ou c'est moins beau ou c'est donc et avec un traumatisme que cela peut causer et c'est à ce titre que la peur d'un raté, c'est un peu cette obsession de la chirurgie esthétique sur tous les parties de notre corps qui font que on veut une image idéale de soi,
mais si ça loupe,
et à la fois on a peur que ça loupe, donc en fait ça pose vraiment la question de la difficulté que nous avons à nous accepter, la difficulté de faire avec nous, puisque comme vous le dites très justement, une fois qu'il bande, il bande et il est comme circoncis, point.
Jimmy.
Difficile de remonter là-dessus, mais
pardonnez-moi, Jimmy, je sais que je vous heurte.
Alors, j'ai le trou des bras si ça me revient. Non, mais on a dit finalement dans l'acte sexuel, pour un homme, ça change pas grand chose. Mais est-ce que pour une femme, ça change quelque chose, un homme circoncis ou pas? Il y a pas, c'est pareil, les sensations
non,
sont.
C'est exactement pareil pour elle. C'est vraiment encore une fois dans le fantasme, puisque les sensations au niveau du vagin ne sont pas suffisamment fortes pour de toute façon pouvoir percevoir la différence entre circoncis et non circoncis, puisqu'encore une fois qu'elle est pénétrée, de toute façon, ce prépuce se rétracte pour laisser le gland à toute sa présence de toute façon. Donc ça change en fait surtout dans tout ce qui est préliminaire, dans tout ce qui est caresse, dans tout ce qui est fellation, tout ce qui est masturbation et qui du coup oblige à tenir compte parce qu'un prépuce en général a un frein, moi, qu'il ait été rompu. Et donc du coup ça change la façon de toucher le corps de l'autre, le sexe de l'autre.
Merci beaucoup Catherine pour toutes ces précisions et donc à demain. Le dossier du jour demain portera sur la sclérose en plaques et sur les avancées médicales dans cette pathologie. Voilà, c'est la fin de cette émission. Tout de suite place à Mathieu Noël et à son équipe sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie, restez bien avec nous aujourd'hui. Je sais que vos enfants sont encore petits, mais il faut se préparer au jour où ils sont grands et où ils quitteront le nid familial.
Ils grandiront jamais les miens.
C'est ce qui va advenir à coup sûr. Lisa Azuelos, qui connaît bien les ados, on se souvient de son film LOL, publie un livre très intéressant, La vie en ose, où elle raconte comment se réinventer une fois que les enfants ont quitté le nid. Car ça va arriver, Mélanie.
Oui. Vous voulez me rendre malheureuse comme ça? Parce que c'est la vie.
Bon, je vais écouter pour me préparer, alors merci beaucoup, Mathieu.
Et on va rire.
Et vous aussi, surtout, restez sur Europe 1.